I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, dans la série des entretiens un petit peu particuliers, on est ravis aujourd'hui d'accueillir Stoffel Van Dorn. Bonjour Stoffel, bienvenue dans la confrérie des fous du volant.
Bonjour, merci.
Alors, vous avez été pilote de Formule 1, d'abord pilote d'essai, puis pilote titulaire pendant deux saisons, 2017-2018, pilote de Formule 1 ensuite, depuis 2018, et puis vous avez rejoint ensuite DS Penske début 2023. Vous venez de prolonger d'ailleurs avec DS Penske, et puis vous avez été aussi titularisé chez Peugeot en endurance. On va revenir sur tout ça. Je voudrais juste expliquer rapidement ce qu'on fait rarement, mais... c'est toujours un petit peu particulier dans les fous du volant. Les coulisses de cette interview, on devait la faire en début de semaine. Puis finalement, je crois que Jay Penske a rappelé tout le monde du côté de Londres en début de semaine. Rappel général ?
Oui, c'est ça. Parfois, ça arrive dernière minute d'avoir un meeting. Jay, qui habite lui-même à Los Angeles, il a décidé de venir en Europe pour faire un rendez-vous avec les pilotes pour parler un peu de la saison prochaine. Donc, malheureusement, on n'a pas pu faire le podcast en début de semaine, mais c'était pour une bonne raison.
Exactement, c'était pour la bonne cause. Alors, je disais, DS Penske l'année prochaine en Formule 1, Peugeot en endurance, ça va quand même faire un très, très gros et très, très beau programme.
C'est sûr, ouais, je pense que... c'est le programme idéal pour moi parce que je fais la F1 avec DS Penske. J'ai fait la F1 depuis quelques années. J'ai aussi fait de l'endurance dans le passé, quelques courses. J'ai fait une saison en LMP2 aussi en 2021 avec Jota. Et c'était toujours le but pour moi de revenir en endurance et d'être avec un constructeur qui me permettra de pouvoir se battre pour les 24 heures du Mans. Donc, je pense que l'année prochaine, ça va être super chargé entre la FE et le WEC, mais je pense que c'est top d'être inclus dans ces deux championnats.
On va revenir, on va évidemment parler beaucoup de Formule 1 parce que ce Jay Penske qui rappelle un petit peu tout le monde, ça se fait après une saison 2023 qui a été compliquée. Vous êtes arrivé chez DS Penske en tant que champion, vous aviez été champion en Formule 1 avec Mercedes, vous avez terminé 11e cette saison. Jean-Éric Vergne, votre coéquipier, a terminé 5e et DS Penske a terminé 5e au classement par équipe. J'imagine que le discours de Jay Penske, ça a été qu'on ne peut pas se contenter de ce genre de résultat.
C'est sûr, ça n'a pas été une bonne saison pour nous. Je pense que simplement avec cette nouvelle voiture, la nouvelle Gen 3, on n'a pas fait du très bon boulot avec la nouvelle voiture en termes de compréhension, comment extraire le potentiel de cette voiture. Et il y a pas mal de choses qu'on n'a pas très bien fait en début d'année, qu'on a fait un peu mieux à la fin de saison. Mais il nous manque quand même un petit peu de performance globale comparé à Jaguar et Porsche qui ont plutôt dominé la saison. Donc, on sait qu'on doit faire un step en avant. On ne peut pas continuer comme on a fait la saison dernière. Et c'est pour moi aussi, c'était, je pense, une de mes pires saisons ou pas de mon standard, je dirais. Donc, moi aussi, je veux tout faire pour que ça fonctionne, pour qu'on fait un step en avant et qu'on se retrouve à nouveau dans une position où on peut se battre pour les podiums, les victoires et les championnats aussi.
Parce que, alors, c'est pas pour vous trouver des excuses, mais déjà, j'ai le sentiment que changer d'équipe en Formule 1, c'est quand même très, très particulier. On m'a fait tester chez DS le simulateur. C'est infernal à comprendre tout ce qu'il y a à faire sur les autos. Donc déjà, changer d'équipe, je pense que ça doit être compliqué. Changer d'équipe quand il y a une nouvelle génération de voitures, comme c'était le cas en 2023, ça doit encore rendre la chose plus compliquée. Et puis pour couronner le tout, DS était associé à Penske pour la première fois cette saison. Enfin, c'était quand même beaucoup de challenges en même temps.
C'est sûr, oui, il y a eu beaucoup de changements avant d'attaquer cette saison l'an dernier. De rejoindre une nouvelle équipe, c'est jamais super facile parce que j'étais avec Mercedes pendant 4 ans et forcément, au bout des 4 ans, tu connais exactement comment l'équipe fonctionne, tu connais toutes les personnes dans l'équipe, les procédures de travail et tout ça. Et il fallait vraiment que je commence de zéro avec DS Penske. Comme tu disais, c'était la première année avec DS et Penske aussi. Donc, il y a eu un peu de temps d'adaptation de ce côté-là, comment l'équipe allait fonctionner. Et aussi de mon côté, de trouver la bonne relation avec mes ingénieurs, de comprendre comment ils travaillent exactement. Ça a pris un tout petit peu de temps au début, mais je pense que la milieu de saison et la fin d'année étaient, on a fait un step en avant, on commence à se sentir plus à l'aise, plus confortable, comment setuper la voiture et on a d'ailleurs fait nos meilleurs résultats vers la fin de saison aussi.
Comment ça se passe avec Jean-Éric Vergne, qui est un petit peu le taulier de l'équipe? Alors, le hasard fait que vous avez failli être coéquipier en Formule 1 à l'époque, il y a un petit moment, chez Toro Rosso, je ne sais pas si je dis une bêtise, et puis finalement, vous vous retrouvez de nouveau, enfin, vous vous retrouvez pour de bon coéquipier chez DS.
Je pense qu'on n'a jamais vraiment, on n'était jamais vraiment censé être coéquipier en F1, je crois. Je pense que on avait des parcours un peu différents, mais c'était la première année avec Jeff et Jeff, lui à la maison chez DS, bien sûr, il a fait presque toute sa carrière en Formule E là-bas. Ils ont eu plein de succès ensemble et c'était d'ailleurs c'était une des raisons pour pourquoi j'ai rejoint cette équipe aussi. C'est une équipe qui a gagné énormément de championnats, des titres de course, qui était toujours un de nos adversaires pendant les dernières saisons. Et c'était aussi pour ça que j'ai rejoint l'équipe parce que je voulais être compétitif. Et je pense avec Jeff, j'ai un très bon coéquipier à côté de moi. Je pense qu'on fait un très bon duo. On a tous les deux beaucoup d'expérience en F1 maintenant. On a tous les deux gagné des championnats. Donc, vraiment, notre but, c'est de travailler ensemble maintenant pour que l'équipe fasse un step en avant et qu'on pourra à nouveau se retrouver dans une position pour gagner le championnat.
J'espère que vous vous appréciez bien avec Jeff parce que non seulement vous allez repartir pour une saison en Formule 1 ensemble, mais en plus vous allez partager la Peugeot en endurance. Vous allez passer, c'est avec lui que vous allez passer le plus gros de votre année.
Oui, je pense que moi et Jeff, je pense que Jeff, il passe plus de temps avec moi qu'avec sa femme. Donc, non, on s'entend très bien. Je pense que c'est très important aussi dans l'esprit de l'équipe que les pilotes s'entendent. Après, c'est sûr, une fois qu'on est en piste, on veut se battre et on veut faire le mieux, notre meilleur job. Ça, c'est logique et je pense qu'il faut l'avoir aussi, cette mentalité. Mais ça n'empêche pas qu'on travaille ensemble et qu'on essaie de faire le mieux pour l'équipe aussi.
On a vu d'ailleurs sur le Grand Prix du Japon en Formule 1, on va parler un petit peu de Formule 1, qu'entre les coéquipiers, parfois ça peut être très très chaud. Dans une équipe que vous connaissez bien, chez Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, ils ne se sont pas fait de cadeaux dans le début de course. Pour vous, ça fait partie du jeu, c'est normal.
Je pense que ça fait un peu partie du jeu. Souvent, c'est normal que les deux pilotes de la même équipe se retrouvent ensemble et qu'ils se battent. Après, il y a toujours des scénarios où c'est peut-être pas forcément bien de se battre. Il y a des scénarios où ça change pas énormément. Donc, il faut savoir quel est le bon moment, je dirais, pour aller se bagarrer.
On va revenir sur votre parcours en F1, Stoffel, si vous le voulez bien. Vous avez été donc pilote d'abord d'essai pour McLaren et puis ensuite titulaire en 2017 et 2018. J'ai envie de dire, je suis désolé, on a des gens qui nous suivent qui sont assez jeunes. J'ai l'impression que c'était le pire moment pour McLaren 2017-2018. Vous vous retrouvez en tant que coéquipier avec Fernando Alonso et c'est lui qui lâche ce fameux cri dont on se souvient tous, GP2 Engine, et il qualifiait le moteur Honda d'un moteur de GP2, qui est l'ancienne Formule 2. Ça a été l'année la plus compliquée, les années les plus compliquées dans votre carrière?
Ouais, je pense certainement que c'était les 2 années les plus difficiles de ma carrière parce que, voilà, avant la F1, j'avais gagné tous les championnats et enfin, on a l'opportunité de pouvoir rouler en F1. Donc, d'un côté, c'est un rêve qui se réalise. Mais après, les conditions, ils étaient pas bien du tout. La voiture, elle était, ou c'était, je pense, la pire McLaren de l'histoire, parce
De l'histoire de McLaren, je crois bien, oui.
qu'ils ont fait. Donc, voilà, les performances, c'était très difficile. C'était pas, pour moi, pas le bon moment d'arriver dans ce stade-là. En plus, dans l'équipe aussi, il y avait pas mal de changements de management. Donc voilà, l'atmosphère n'était pas du tout bien pendant cette période-là et je me sentais pas à l'aise dans ces conditions-là. Donc les performances, ils étaient pas bien et certainement j'ai appris beaucoup de choses de ces 2 années qui m'ont quand même aidé dans le futur et dans ce que j'ai fait en Formule 1, je dirais.
Une fois qu'on a connu ça, c'est sûr qu'on est prêt à traverser beaucoup de choses. La cohabitation avec un garçon comme Fernando Alonso, on a quelques retours où on nous dit c'est pas tous les jours facile, c'est un cas particulier le garçon.
Ouais, c'était, je pense, je retravaille avec lui maintenant chez Aston Martin, donc je le retrouve là-bas. Et je pense à l'époque, Fernando, il était un peu différent de ce qu'il est maintenant. Il était un peu plus agressif parce qu'il était vraiment fâché sur les circonstances dans l'équipe, sur la performance de la voiture. Et voilà, il cachait rien du tout. Il pensait vraiment qu'à lui pendant ce temps-là, alors que maintenant, j'ai l'impression que certainement la voiture elle va mieux, donc il est plus content, mais il est plus joueur d'équipe et je pense qu'il comprend un peu mieux que ça peut l'aider aussi lui-même de jouer le jeu avec l'équipe. Donc voilà, je pense que cette période-là c'était pas la bonne du tout.
Justement, vous le retrouvez parce que vous êtes aussi pilote d'essai chez Aston Martin. Ça va se poursuivre, ça, en 2024 aussi?
Normalement, oui, c'est pas encore
Officiel?
officiel ou décidé à 100%. Ça dépend un peu de tous mes programmes parce que avec la FE, le WEC, déjà ça commence à faire beaucoup de choses. Mais je pense que je pourrais toujours être impliqué dans une manière ou une autre dans l'équipe. Et je pense que pour moi, c'est bien aussi d'être impliqué dans ce monde encore, tu vois, d'avoir la F1, le WEC, la FE, c'est 3 championnats assez différents, mais on peut apprendre de chaque championnat comment faire des choses mieux, en fait. Donc, ça m'aide sur tous les aspects.
Le projet d'Aston Martin, il est complètement fou. Puis d'ailleurs, il a démarré vraiment sur les chapeaux de roue. Vous vous attendiez à un début de saison aussi incroyable que ça, avec presque sur le point de jouer des victoires?
Je pense que personne ne s'attendait vraiment à faire un si gros step en avant pour Aston Martin. On avait beaucoup d'espoir parce qu'il y a de nouvelles personnes qui ont rejoint l'équipe et qui ont eu beaucoup d'impact sur le développement de la voiture de cette année. Mais je ne pense pas que voilà, les gens pensaient qu'on allait faire des podiums dès les premières courses. Et c'est ce que l'équipe a réussi à faire. On a eu un très très bon début de saison, mais on voit en F1 que c'est pas toujours le début de saison qui compte. C'est plutôt comment on développe pendant la saison. Et je dirais que là, dernièrement, on a eu un peu plus de mal. Tu vois, il y a Ferrari, il y a Mercedes, il y a maintenant McLaren qui ont fait des gros pas en avant. Et nous, on a pas fait ou pas pu faire ces gains au courant de la saison pour garder ce rythme qu'on avait en début d'année. Donc, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à faire dans l'équipe, mais en tout cas, je pense que maintenant, avec la nouvelle usine, la structure qu'il y a dans l'équipe, je pense qu'il y a tout pour réussir.
C'est parfait parce qu'en fait, c'était ma question suivante. Justement, le projet lancé par Laurence Troll, hein, le propriétaire maintenant de cette équipe, l'Aston Martin Campus, tout ça, ça paraît énorme, gigantesque. C'est quoi votre regard sur tout ça? Ça peut vraiment faire trembler la hiérarchie de la Formule 1, faire tomber Red Bull, faire tomber Mercedes, Ferrari?
Ah, bah, ça va demander beaucoup de travail pour le faire, mais en tout cas, l'intention, elle est là. Voilà, on a une toute nouvelle usine. L'équipe a grandi de 350 personnes à plus de 700 personnes maintenant. Donc, l'intention, elle est vraiment là. Il faut embaucher les bonnes personnes et il faut aussi que tout le monde travaille bien ensemble. Et ça prend un tout petit peu de temps au début de faire fonctionner l'équipe, en fait. Ce n'est pas une chose qui arrive d'un jour à l'autre. Donc, je pense que le projet, il a plutôt bien commencé, mais maintenant, d'aller faire le prochain step, d'aller se battre pour des victoires, des championnats, ce n'est pas facile du tout. Et les autres, ils s'arrêtent pas non plus. Tu vois, les équipes comme Red Bull, Ferrari, Mercedes, c'est des équipes avec énormément de ressources et déjà énormément de succès dans le passé. Donc, pour aller se mettre ou aller se battre avec eux, c'est pas facile du tout et ça demande beaucoup d'efforts de l'équipe.
Question un petit peu particulière, mais vous pensez que Lance Stroll, il est capable de se hisser au même niveau que Fernando Alonso? Vous connaissez bien sa situation, on en parlait, vous avez été le coéquipier de Fernando, et même si vous dites qu'il a changé, faut quand même le rattraper, le garçon.
Ah, c'est sûr, Fernando, ça reste un des meilleurs pilotes sur la grille. Donc, tu vois, même si on fait une journée parfaite, tu n'es pas sûr que tu vas être devant Fernando encore, tu vois. Donc, c'est sûr que Fernando, il amène un niveau extraordinaire dans l'équipe. Lance, je pense qu'il a montré des très belles choses. Après, en ce moment, il manque un peu de régularité et je pense qu'il n'a pas été aidé avec pas mal de problèmes techniques aussi, ce qui lui aide pas. Et en plus, en ce moment, la voiture, elle n'est pas aussi performante qu'en début d'année. Donc, il y a tout qui se complique un tout petit peu, pour cette fin de saison.
On voit quand même que la Formule 1, c'est vraiment un milieu sans pitié. Votre histoire à vous, elle en est un symbole parce qu'après ces 2 saisons chez McLaren, vous n'avez pas eu de deuxième chance. Je voudrais qu'on parle rapidement d'un garçon que vous avez bien connu, Nyck de Vries. Vous avez été son coéquipier quand vous avez été champion et quand lui a été champion chez Mercedes. Donc vous avez connu finalement les deux rôles. Bah, il a fait une demi-saison en Formule 1 et il est parti. C'est quoi votre analyse de la situation? C'était trop compliqué, il est arrivé au mauvais moment, un peu comme vous?
La situation de Nick, je dirais qu'elle était un peu différente parce que Nick, il était un peu plus vieux que moi quand il est arrivé en F1, avec un peu plus d'expérience. Il a eu la chance de pouvoir piloter beaucoup de voitures avant qu'il était pilote ou qu'il était devenu pilote d'F1. Mais il est arrivé dans une période difficile aussi pour l'équipe AlphaTauri. Il y avait une voiture qui n'était pas forcément très très bien et il avait à côté de lui un coéquipier qui est peut-être un peu sous-estimé avec Yuki Tsunoda, tu vois, c'était sa troisième année. Il a réussi à marquer deux trois petits points en début de saison et lui il n'a pas réussi à faire ça, alors que je pense que chez Red Bull ils attendaient à qu'il soit devant Yuki presque instantanément, tu vois. Mais la F1, c'est très complexe. Sans expérience, c'est extrêmement difficile d'être au niveau de suite sans expérience. Il y a plein de circuits qu'on ne connaît pas, les détails de la voiture qu'on ne connaît pas et qu'il faut apprendre un tout petit peu. Donc, voilà, C'était une période difficile pour lui et malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps.
Vous allez le retrouver sur les circuits l'année prochaine en endurance, du coup.
En endurance, je ne sais pas, mais en FE, en tout cas, oui.
Ouais. Ça, ce que vous me dites, ça me fait un petit peu penser à l'histoire de Sébastien Bourdais qui était venu dans les fous du volant et qui nous avait dit, quand il avait roulé chez Toro Rosso, dès les essais, avant le début de saison, il est rentré chez lui et il a dit à sa femme, je suis mort, ça marchera pas. Il avait compris en fait que ce qu'il fallait faire avec la voiture, c'était pas sa façon de faire. Comment ça se passe quand on comprend que ça va pas le faire. Est-ce que vous avez cherché un volant pour rester en Formule 1? Comment ça s'est passé le moment où vous vous êtes dit, je vais pas y arriver?
C'est compliqué parce que je pense que dans tout ce qu'on roule, il y a toujours des voitures qui nous conviennent mieux que d'autres. Tu vois, tous les pilotes, ils ont un peu leur propre style de pilotage. Il y a toujours des voitures qui sont un peu plus naturelles à conduire que d'autres. Et je pense que quand on est à ce niveau-là, quand il faut des fois réfléchir un peu trop et que la voiture ne te convient pas à 100%, ça devient très, très complexe d'aller chercher les dernières dixièmes, centièmes de performance dans la voiture. Donc, de ce côté-là, c'est très compliqué. Après, voilà, quand je savais que l'histoire de la F1, c'était fini, j'avais une bonne opportunité que j'ai pris à deux mains avec Mercedes en FE. C'était un tout nouveau projet. Et voilà, je me suis en fait concentré à 100% là-dessus pour pouvoir rebondir, en fait, tu vois. Quand on sort d'une période difficile, mentalement, c'est très compliqué, tu vois. On a des doutes. Est-ce qu'on a fait le bon job? Est-ce qu'on l'a pas fait? Est-ce qu'on a la vitesse? Est-ce qu'on l'a plus? On se pose plein de questions. Donc, pour moi, c'était important de retrouver
La confiance.
la confiance et une équipe qui pourra me donner une voiture pour jouer pour la gagne. Et après, voilà, après, c'était à moi d'aller faire le boulot. Et c'est ce que j'ai réussi à faire avec Mercedes.
Pour 2024, qu'est-ce que vous préféreriez, un titre en Formule E avec DS Penske ou une victoire aux 24 heures du Mans avec Peugeot?
Oh. Les deux, ce serait pas mal, hein.
J'étais sûr que vous alliez me dire ça.
Les deux, ce serait pas mal, mais ouais, je sais pas, je peux pas choisir entre ces deux-là et je vais essayer de faire le mieux des deux côtés. Mais voilà, Le Mans, c'est sûr que c'est un target pour moi que j'aimerais être dans une position pour pouvoir le gagner dans le futur. Et pareil, en FE, j'ai gagné un championnat, mais le but, c'est de se retrouver dans une position pour en gagner un deuxième.
Il y aura un aileron arrière sur la Peugeot en endurance l'année prochaine ou
Même moi, je ne sais pas encore. Donc,
pas?
voilà, on verra.
Bon, merci beaucoup, Stoffel, d'avoir été avec nous. On a débordé un tout petit peu, mais c'était super intéressant. Juste une dernière petite question, parce que quand même, normalement, là, pendant ce week-end de Grand Prix, pendant lequel on enregistre hein, cette interview, on est totalement transparent, Max Verstappen pourrait bien aller chercher une troisième couronne. On sait qu'il est moitié néerlandais, moitié belge. C'est à moitié un de vos compatriotes. Est-ce que c'est une bonne affaire que finalement il soit plutôt considéré comme néerlandais ou est-ce que ça aurait été plutôt bien pour les sports mécaniques en Belgique qu'il court sous licence belge?
Difficile à dire si ça aurait impacté quelque chose pour moi ou pas, mais je pense que la mentalité en Hollande est assez différente de la mentalité en Belgique, je dirais, en termes de comment ils supportent leurs athlètes, je dirais. Voilà, Max, c'est un phénomène et il fait un énorme job en F1. J'étais avec lui encore la semaine dernière et je pense que voilà, il a toutes les cartes en main pour gagner son troisième titre ce week-end.
Ça fait partie des pilotes qui vont écrire vraiment l'histoire de la Formule 1. Il a déjà commencé hein, avec 10 victoires consécutives. Ça, c'est un record. Vous le voyez aller chercher 7 titres comme Lewis Hamilton et Michael Schumacher?
Je pense qu'il peut tout à fait le faire. Après, Max, je ne sais pas combien de temps il va continuer en F1. Je sais que c'est quelqu'un qui voudrait faire des autres choses et qui n'a pas forcément l'objectif dans la tête de, voilà, d'aller gagner 8 titres de champion du monde. Je pense qu'il a envie d'essayer d'autres choses à côté et voilà, d'expérimenter un peu avec des autres championnats. Mais on ne sait jamais. Il est encore jeune, il a encore beaucoup de temps, donc le temps va dire.
Merci beaucoup encore, Stoffel, d'avoir été dans les fous du volant. On vous souhaite une belle saison 2024 et avec DS Penske et avec Peugeot en endurance et avec Aston Martin en F1. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.